Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
je suis pas d'accord sur rien avec ce que je viens de d'entendre des
ça tombe
autres.
Bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
19h01 sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening Business qui débute avec Audrey Tcherkov, bien sûr. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Donc les marchés en stand-by ce soir, parce qu'on attend, c'est dans moins d'une heure maintenant, la prise de parole de la Réserve fédérale américaine qui devrait théoriquement augmenter ses taux d'intérêt. On va aller du côté de New York retrouver Sabrina Cogliotti dans un instant.
Et de son côté, c'est la Commission de Bruxelles qui a commencé à faire des propositions en faveur de la transition écologique à l'échelle européenne. On va écouter Ursula von der Leyen, sauf que à ce stade, il n'y a pas de vraie réponse au plan anti-inflation américain, mais on en parle tout à l'heure à 19h10 avec la représentante à Paris de la Commission européenne.
On parlera aux énergies vertes jusqu'à 20h quasiment, parce que dans une demi-heure, c'est le patron de Neuen, Xavier Barbaro, premier producteur français indépendant d'énergie 100% renouvelable, qui sera notre invité dans la grande interview. Puis on fera un petit aparté pour aller à Rétromobile quand même.
Évidemment,
ses ports de Versailles et sa cartonne sont... Directeur sera avec nous dans quelques instants. Voilà le programme, on est ensemble bien sûr jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc oui, on file à New York. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York parce que la Fed va parler dans un petit peu moins d'une heure maintenant et on attend de nouvelles hausses de taux d'intérêt, Sabrina.
Ah oui, première décision de politique monétaire de l'année. Le marché attend un ralentissement du rythme des hausses de taux d'intérêt, 25 points de base. C'est ce qu'attend le marché après une hausse de 50 points de base sur le mois de décembre, qui était déjà un ralentissement puisque, souvenez-vous, précédemment, on a eu quand même 4 hausses consécutives de 75 points de base. Tout cela pour combattre l'inflation, bien sûr. Or, eh bien, l'inflation ralentit, c'est ce que tout, en tout cas laissent entendre les récentes statistiques. Les derniers chiffres d'inflation ont montré ce ralentissement. Vous avez également plusieurs discours de membres de la Réserve fédérale américaine, dont Chris Waller, le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, qui ont indiqué qu'il serait peut-être effectivement temps de ralentir de nouveau ce rythme de hausse de taux d'intérêt. Grand rendez-vous donc tout à l'heure, 25 points de base ou pas. Et puis surtout, le marché attend de voir quelle sera la tonalité du discours de Jérôme Powell. Va-t-il rester ferme dans son discours pour combattre cette inflation, même si elle ralentit, hein, le risque étant une résurgence des pressions inflationnistes et s'il y a un assouplissement trop marqué des conditions financières. Donc, grand rendez-vous. En attendant, on reste vraiment très prudent sur ces marchés américains, puisque c'est le rouge qui l'emporte. On recule un peu plus de 1% sur l'indice Dow Jones et de 0,3% sur le Nasdaq.
Merci beaucoup Sabrina. On vous retrouve dans quelques minutes d'ailleurs pour faire un point sur les principales variations à Wall Street, bien évidemment. Bon, ces banques centrales, a priori, hausse de taux tout à l'heure aux États-Unis, hausse de taux demain en Europe. On a des banques centrales qui continuent de remonter leurs taux d'intérêt.
Eh oui, Guillaume, mais en effet, que ce soit ce soir pour la Fed ou demain pour la BCE, de toute façon, on connaît l'issue. Elles vont toutes les deux relever leurs taux directeurs. Donc maintenant, clairement, les regards commencent déjà à se tourner vers la prochaine réunion qui aura lieu en mars. Et le rythme et le calendrier du resserrement monétaire après mars, eh bien, il va dépendre de la conjoncture mondiale. D'un côté, sur le ralentissement aux États-Unis, et puis de l'autre, eh bien, sur la réouverture en Chine. On verra.
Annonce ce soir, en tout cas, on verra. Oui, de la Fed à 20h, on suivra ça direct tout à l'heure avec Stéphane Pedrazzi. En Europe, pendant ce temps, à Bruxelles, on a commencé à esquisser aujourd'hui quelques propositions, vous savez, pour soutenir la transition énergétique à l'échelle du continent, pour essayer de tenir la dragée haute aux Américains et aux Chinois. C'est Ursula von der Leyen qui a parlé. Elle a annoncé que l'octroi des aides d'État dans l'Union serait facilité pour les projets dédiés à cette cause, bien sûr. Écoutez la présidente de la Commission.
We have at national level Nous avons au niveau national un instrument bien connu, l'aide d'État, qui fait la promotion de l'investissement dans les secteurs stratégiques. L'Union européenne s'est déjà dotée d'un cadre temporaire de crise, et ce depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous continuerons son adaptation pour être en phase avec les exigences de la neutralité industrielle. Ce cadre doit être spécifique et limité dans le temps.
Voilà, Ursula von der Leyen, tout à l'heure à Bruxelles. Oui, on facilite les aides d'État. Est-ce qu'on n'est pas un peu déçu quand même du discours de la présidente de la Commission ce soir?
Bah oui, évidemment qu'on est déçu, parce qu'en réalité, Ursula von der Leyen, elle est complètement tenue. La majorité des grandes décisions, elles vont se prendre courant février, là d'ici 15 jours, lors du prochain sommet européen. Et ça s'annonce assez rock'n'roll, puisqu'il y a déjà certains pays qui sont contre les mesures qu'elle a annoncées, puisqu'ils disent qu'elles vont bénéficier principalement à la France et à l'Allemagne.
Conseil européen, donc les 8 et 9 février à Bruxelles. Et dès le 7, on l'a appris cet après-midi, Bruno Le Maire et son homologue allemand iront à Washington justement pour parler des conséquences de l'IRA pour l'Europe, bien évidemment. Et alors justement, puisqu'on parle transition écologique, confirmation, chiffre à l'appui, qu'il se passe quand même quelque chose en Europe sur le véhicule électrique. L'an dernier, 12% des véhicules qui se sont vendus en Europe étaient des véhicules électriques. C'était seulement 9% un an plus tôt. C'est Nathan Coquan pour nous raconter ça.
1,1 million de véhicules électriques vendus en Europe l'année dernière, en progression de 28% sur un an. Des ventes tirées par l'Allemagne, mais aussi la Norvège, où 4 voitures 9 sur 5 sont électriques, un record. La Norvège, qui a pour objectif de ne plus vendre de voitures thermiques dès 2025, 10 ans avant ce que prévoit l'Union européenne. Au total, en 2022, les ventes d'électriques ont représenté 12,1% des voitures neuves, contre 9,1% un an plus tôt, et un peu moins de 2% en 2019. Les ventes de voitures diesel, elle continue de chuter fortement. Reste que les véhicules électriques sont encore achetés principalement par les Européens les plus aisés. Et si le leader Tesla a baissé ses tarifs en début d'année, ce n'est pour le moment pas une réflexion chez les autres constructeurs. Et un autre point faible demeure celui des infrastructures. Il faudrait installer 14 000 bornes chaque semaine en Europe selon les industriels, soit 7 fois plus que ce qui est fait actuellement. Pourtant, les constructeurs n'arrêtent pas d'investir, déjà 250 milliards d'euros dans leur électrification.
Nathan Cocampo, et puis on vous en parlait hier, mais ça se réchauffe sérieusement entre Airbus et Qatar Airways, qui parlent ce soir d'un projet de rapprochement. Vous savez que les deux groupes sont engagés dans une bataille juridique depuis quelques mois. Qatar Airways qui accuse Airbus de défaut de conception sur ses A350, mais apparemment on est proche d'un accord entre les deux parties. On vous parlera de ça bien évidemment au fur et à mesure que les choses avanceront dans ce dossier. 19h08, on retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, ça a été très très calme. En attendant, bien sûr, la prise de parole de la réserve fédérale américaine, moins 0,07%, 7077 points. C'est pas très agité non plus côté valeur, peut-être un petit peu. Certaines ont surnagé, Sabrina, chez vous, comment ça se passe?
Allez, côté tendance, oui, c'est très calme. On attend bien sûr la Fed. Côté valeur, il y a quand même quelques valeurs qui se distinguent tout particulièrement. C'est le cas de Snap, c'est la maison mère de Snapchat, qui s'effondre en bourse après la publication de ses résultats trimestriels. Troisième publication d'affilée avec des chiffres en dessous des attentes de la communauté financière. Snap qui cite un environnement économique très compliqué, des changements sur la plateforme, au niveau de la plateforme, et également bien sûr une concurrence accrue. Du coup, eh bien, le titre est massacré, moins 13% pour Snap, maison mère de Snapchat, donc sous les 10$. Autre publication et autre réaction, Peloton, vous savez, c'est le spécialiste des vélos d'appartement nouvelles génération, eh bien figurez-vous que le titre s'envole de 20%. C'est en réaction à la publication de chiffres supérieurs aux attentes. En tout cas, une perte qui est réduite. Et Peloton qui nous indique que les revenus tirés de ces abonnements sont supérieurs à ceux des revenus tirés des ventes de produits. Et cela rassure la communauté financière, en tout cas, puisque le titre donc s'envole de 20%. Enfin, AMD dans les semi-conducteurs affiche une hausse de 9% suite à la publication de ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Mais la tendance donc est légèrement négative. On attend la Fed, bien sûr. Le Dow Jones perd 0,9%. Le S&P 500 en repli léger de 0,5%. Le Nasdaq, de son côté, perd 0,24%. On est à 11 557.
Merci beaucoup, Sabrina. Je vous rappelle, annonce et commentaire après la prise de parole de la Fed à suivre à partir de 20h sur BFM Business avec Stéphane Pedrazzi. Merci beaucoup, Sabrina. On vous retrouve toute la soirée pour suivre la façon dont va évoluer cette séance à Wall Street. Il est 19h10, on marque une pause. À suivre dans le prochain quart d'heure sur BFM Business, la porte-parole de la Commission européenne en France, Adina Revol, pour réagir à ce que nous a dit Ursula von der Leyen, qui esquisse quelques réponses pour soutenir la transition écologique en Europe. Et puis dans un tout autre style, le patron du salon Rétromobile qui a ouvert ses portes aujourd'hui, porte de Versailles, et ça cartonne littéralement. Tout ça jusqu'à 19h30. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Le luxe s'installe sur BFM Business. Tout un univers à découvrir. Un site, des podcasts et une émission, cet iconique business. Ce sera exclusif, intemporel, mythique, responsable et surtout déculpabilisé.
C'est là où on parle de luxe accessible puisque nous sommes véritablement dans les codes du luxe, que nous sommes les seuls à faire ce que nous faisons aujourd'hui.
On est sur des adresses de prestige, c'est une adresse illustre.
C'est cette exclusivité
au milieu de l'art, le mettre au service de notre clientèle.
On en compte 31 qui ont cette prestigieuse distinction en France.
Tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les derniers jours pour faire des doubles économies grâce aux doubles soldes. Jusqu'à mardi, 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaire sur la collection Soleil. Les avantages sont éblouissants. Les doubles soldes Poltron et Sofa se terminent le mardi 7 février.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà!
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin.
Hugo?
Oui?
As-tu avancé sur l'équipement d'ordinateurs portables pour nos commerciaux?
J'ai trouvé la meilleure solution chez une Mac W Store. Le nouveau MacBook Air M2 est simple à utiliser, compatible, sécurisé et est disponible en location à partir de 1€ par jour sur 3 ans, soit une économie de 12%. En plus, une MacW Store offre de nombreux services pour les entreprises et des conseils personnalisés avec leurs experts Mac.
Vous aussi, louez votre MacBook Air M2 et bénéficiez d'un matériel neuf, renouvelé tous les 3 ans. Voir conditions chez InMacW Store, le spécialiste Mac en entreprise.
Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablette et smartphone. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, immo, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Good evening business, l'invité.
19h13, notre deuxième invité, c'est Adina Revol. Vous êtes porte-parole de la représentation en France de la Commission européenne. Merci d'être sur ce plateau.
Merci pour l'invitation.
Alors, il y a eu des annonces aujourd'hui à Bruxelles. On a entendu Ursula von der Leyen. On souhaite donc concurrencer les Européens et les Chinois dans le domaine des technologies vertes. Alors, on l'a entendu. L'idée, c'est vraiment d'assouplir provisoirement les règles en Europe en matière d'octroi des aides d'État. Mais il y a déjà plusieurs pays qui émettent des réserves parce qu'ils disent que ça va bénéficier aux économies les plus avancées européennes, c'est-à-dire à la France et à l'Allemagne. Qu'est-ce que vous dites, vous ?
Je dis que nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour commencer à financer et à encourager la transition climatique dans l'Union européenne. Nous sommes même les leaders de la transition climatique. Et il y a 3 ans, le 11 décembre 2019, nous avons lancé le Pacte vert, qui est la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne. Et c'est des paroles et des actes, puisque il y a une loi climatique au niveau européen. Nous sommes le seul continent à avoir une loi climatique et des financements très très importants. Rien qu'avec le plan de relance, les 3 dernières années, nous avons investi 250 millions. Milliards d'euros dans la transition climatique en Europe. Et c'est très réel en France, c'est MaPrimeRénov, la rénovation des hôpitaux. Oui. Et ça, c'est au niveau de l'Union européenne. C'est juste pour vous donner quelques exemples très précis. Après, bien sûr, il y a les aides d'État. Les aides d'État, c'est un instrument national. Oui. Alors, c'est un instrument qui existe. Et donc, aujourd'hui, la Commission a lancé une consultation pour davantage de flexibilité, de simplification et pour le focaliser sur les industries d'avenir. Donc, les industries, typiquement le stockage, l'électrolyse. Mmh, ouais. Et donc ça, c'est effectivement c'est un instrument qui peut être utilisé par un certain nombre d'États, pas pour tous les États.
Mais même, bon, il y a quelque chose, on analyse que ce qui a été dit, c'est assouplissement temporaire jusqu'en 2025. Pourquoi temporaire? Pourquoi, parce qu'on sait que du côté des Américains, des Chinois, pardon de le dire comme ça, ça fait très longtemps qu'on ne se gêne plus en la matière. Pourquoi seulement jusqu'en 2025?
Alors ce qui est important, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est un plan de compétitivité pour l'industrie européenne. Et la compétitivité ne peut pas se baser uniquement sur les aides l'aide d'État. Parce que vous savez, dans l'Union européenne, notre plus grand acquis, c'est notre marché intérieur. Et donc, comme il y a des États qui peuvent utiliser davantage cet instrument temporaire d'aide d'État, certains le font plus que d'autres parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Donc, ce qu'on doit faire au niveau européen, c'est avoir plus
d'aide. C'est un compromis. C'est un compromis.
C'est avoir plus d'aide européenne. C'est avoir plus d'instruments européens. Et c'est pour cela qu'on a un instrument dont on parle très peu, même si aujourd'hui c'est un instrument phare, qui s'appelle REPowerEU, parce que c'est l'instrument, c'est 270 milliards d'euros qui vont nous aider dans les prochains mois, justement, à nous diversifier du gaz russe. Et ça, c'est l'énergie. Typiquement, l'IRA américain, c'est l'énergie. Donc là, on a un instrument au niveau de l'Union européenne. Et la présidente a annoncé, justement, pour l'été, un fonds de souveraineté européen.
Oui, alors justement, qui ne met pas tout le monde d'accord, puisque les Allemands notamment sont contre.
Alors, le Fonds de souveraineté s'inscrit dans une discussion. Vous savez, on a un budget européen sur 7 ans et à l'été, on aura un bilan du mi-mandat. Oui. Et donc, à ce stade-là, nous allons faire un bilan. Et donc, la présidente a annoncé que nous allons lancer les discussions sur le Fonds de souveraineté.
Mais enfin, clairement, est-ce que vous pensez que là, on est à la hauteur de l'IRA américaine qui, en effet, met 370 milliards de dollars sur la table, mais pas que, qui aussi donne des subventions massives aux entreprises pour venir se réimplanter sur le sol américain? Ce qu'on ne fait pas.
Aujourd'hui, ce que nous avons proposé, en fait, c'est un plan en quatre piliers. C'est-à-dire qu'on propose d'un côté un environnement réglementaire très favorable et nous allons proposer justement une loi industrielle européenne de le mois de mars. Nous avons proposé donc une accélération des aides nationales avec les aides d'État et aussi au niveau de l'Union européenne. Nous avons REPowerEU de 170 milliards. J'ai parlé du plan de relance de 150 milliards. Le fonds de cohésion, c'est 100 milliards sous 7 ans. Donc nous avons beaucoup de centaines de milliards aussi au niveau de l'Union européenne. Ouais. Troisième étape, c'est les compétences. Parce que vous savez, la transition climatique et les aides et l'industrie, c'est rien sans les hommes et les femmes. Oui. Et justement, on investit aussi massivement pour les compétences.
Vous parlez aussi d'autoriser plus rapidement des projets verts. Ça veut dire quoi, de manière très pédago, autoriser plus rapidement? C'est mettre fin ou accélérer des procédures? C'est quoi l'idée fondamentalement?
Alors il s'agit d'accélérer les procédures. Vous savez, on a des projets typiquement l'hydrogène. Aujourd'hui, on a deux projets en Europe entre divers États pour faire de l'hydrogène vert à l'échelle de l'Union européenne. C'est des projets européens d'intérêt commun. Oui. Et donc ces projets-là, la France y participe d'ailleurs, et ces projets-là, on essaie justement de simplifier les procédures, parce qu'on doit avoir une notification d'aide d'État à la Commission, et ensuite on va proposer justement de simplifier les procédures d'adoption de la décision de la Commission européenne.
Parce que c'est très long aujourd'hui, ça peut prendre combien de temps? Je veux dire, c'est le cap de toutes ces procédures.
Alors on peut toujours mieux faire. Aujourd'hui, vous savez, quand on a mis en place le cadre temporaire d'aide d'État, on est allé très vite. Aujourd'hui, pour approuver une aide d'État, c'est 17 jours. Donc, on va essayer de faire encore plus vite et aussi de simplifier les diverses étapes du processus.
Ouais. Mais enfin, on peut pas réellement parler de s'engager dans la transition écologique au niveau européen sans résoudre notre problème de dépendance à la Chine, notamment pour les terres rares et pour le lithium. Comment est-ce qu'on va le résoudre, ce problème?
Alors, il y a deux axes. Nous allons proposer aussi ce printemps une loi européenne sur les matériaux rares. Oui. Et le deuxième axe, c'est le commerce. C'est justement, nous allons renforcer notre dimension commerciale pour assurer des chaînes d'approvisionnement solides au niveau mondial.
Donc on en reparle au printemps prochain.
Absolument. Voilà pour ces premières annonces. Et puis donc ce Conseil européen, la semaine prochaine, les 8 et 9 février, du côté de Bruxelles. Et des annonces, effectivement, au mois de mars. En tout cas, c'est le calendrier qui est vendu aujourd'hui. Merci beaucoup Nina Revol, merci de passer nous voir ce soir quelques minutes pour ce décryptage, la porte-parole de la représentation française de la Commission européenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business, 19h20.
Good evening business, ils font l'écho.
On parlait voitures, alors peut-être pas que des voitures vertes, hein, pour le coup.
Ben non, mais c'est plutôt l'inverse.
Mais ce sont des voitures à part, ce sont des voitures de collection. Romain Grabowski, bonsoir.
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 Bienvenue, président du salon Rétromobile qui a ouvert ses portes aujourd'hui, c'est ça, hein?
Aujourd'hui, avant-première hier soir et
porte de Versailles
en public aujourd'hui.
Ça dure 3 jours, c'est ça?
Un peu plus, jusque dimanche soir.
C'est dimanche prochain, 125 000 visiteurs attendus, 1000 véhicules exposés, 12 constructeurs présents. C'est un rendez-vous d'amateurs ou ça va au-delà du rendez-vous d'amateurs, monsieur Grabowski?
C'est avant tout un rendez-vous de passionnés. On a 125 000 visiteurs attendus, qui est un chiffre avant Covid. Et voilà, ils viennent parce qu'il y a des très belles autos. On a la chance d'avoir ce qu'on considère être le plus beau salon de véhicules de collection au monde. C'est pas le plus grand, mais en tout cas,
il y en a beaucoup.
1000 véhicules qui sont exposés.
Mais alors, qu'on peut acheter ou pas?
La majorité sont en vente.
D'accord.
La majorité sont en vente. Et on joue sur les deux tableaux. C'est qu'on a la chance d'avoir les plus belles autos du monde. Alors, notamment, il y a une Ferrari 250 LM qui va partir aux enchères vers 25 millions d'euros. Donc voilà, il y a des chiffres comme ça qui font tourner la tête. Mais on a aussi une zone avec 130 véhicules à moins de 25 000 euros. Donc ouais. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans la collection peut aussi trouver son bonheur sur le salon.
Et puis on parle aussi évidemment de la star de ce salon. Hein. C'est la Ferrari 250 ML qui, elle, vaut...
C'est celle-là, oui.
C'est celle-ci.
25 millions.
Exactement. Qui sera jugée donc, par la maison de vente aux enchères Arturial ce vendredi vers 17h. Et voilà, les chiffres font tourner la tête. Mais il y a eu 32 modèles de produits. Et du coup, la rareté fait aussi la valeur, modèle d'exception. Donc.
Et en France, on a 400 000 collectionneurs.
400 000 collectionneurs.
400 000 collectionneurs en France.
C'est une niche, mais une niche qui pèse quand même.
C'est quand même une sacrée niche, oui. Enfin, j'aurais pas imaginé.
400 000 collectionneurs et ça pèse à peu près, sachant qu'un collectionneur, généralement, il y en a plusieurs, ça pèse à peu près 1 million de véhicules.
Alors attendez, c'est quoi un collectionneur?
C'est un propriétaire de véhicules de collection.
Qui peut en avoir qu'une.
Mais très souvent, ils en ont plusieurs.
C'est ça, voilà, voilà. C'est quoi le profil du collectionneur type? Ça existe, ça, ou...
Il y a un profil type. Bon, j'en fais partie. Mais c'est 55 ans d'âge moyen, CSP+.
Est-ce qu'il y a des femmes?
Il y a des femmes. Voilà. Ah. C'est pas la majorité, en toute honnêteté, mais il y a beaucoup de femmes, de la même façon qu'il y a des femmes aussi dans les sports mécaniques.
Ouais.
Donc, voilà, ça représente aujourd'hui à peu près un bon 10% du visitorat. Mais on voit qu'il y a un engouement. On a créé aussi une zone, cette année, Van Life, pour les jeunes, et étrangement, dans cette proportion-là, il y a beaucoup de femmes aussi qui s'intéressent.
Je vais alors, poser la question que vous avez envie de poser, qui vous démange,
oui,
Audrey.
Évidemment. Est-ce qu'il y a une adaptation aux contraintes écologiques?
Alors, déjà, avant de s'adapter, il y a des chiffres qui montrent que... Alors, je n'ai pas la prétention de dire que nos véhicules sont propres, mais un véhicule de collection fait en moyenne 1100 km par an. Et donc, en partant de ce principe-là, et en plus de ça, la pollution liée à la fabrication a eu lieu une seule fois. Le véhicule dure dans le temps, contrairement à l'obsolescence programmée sur la plupart des nouveaux véhicules. Et donc, grâce à ça, la Fédération française des véhicules d'époque a obtenu une exception, et ces véhicules sont autorisés, avec une carte grise qu'on dit de collection, à rouler dans les ZFE, zone à faible émission. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a aussi une adaptation où il y a un certain nombre de constructeurs présents aussi sur le salon qui viennent proposer des modèles qu'on appelle rétrofit. Ouais. Et donc, c'est un véhicule de collection. On garde sa carcasse, mais on vient moderniser la motorisation avec un moteur électrique.
Mais c'est vrai, on voit de plus en plus de constructeurs qui lancent des modèles inspirés un petit peu des grands modèles d'antan. Alors, il y a Volkswagen avec le combi qui sera sur le salon, notamment. Il y a une 4L, tout ça, c'est une tendance de fond véritablement, ou vous dites que c'est juste un effet de mode éphémère, tout ça c'est...
On a 12 constructeurs, le salon fête sa 47e édition, donc bon, voilà, on n'est pas sur un coup d'épée dans l'eau, voilà, ça s'inscrit vraiment dans le temps, et avec les années, on a de plus en plus de constructeurs qui viennent sur le salon parce que je pense que la nostalgie, le passé, l'héritage a un futur, et ils viennent sur le salon pour, faut pas se leurrer, pour vendre aussi des véhicules neufs, mais pour, parce que c'est une belle plateforme pour raconter une histoire. Et par exemple, Volkswagen, ils viennent de lancer un nouveau véhicule électrique, l'ID.Buzz, qui est le descendant des fameux mythiques combi, et du coup, ils viennent exposer le T1, le T2, le T3, et ils racontent leur histoire.
D'accord. Et est-ce que ce salon rétromobile, il a vocation à s'exporter?
C'est dans les tuyaux. Non, effectivement, il y a cinq marchés.
C'est quoi les gros salons à part Rétromobile en France?
Il y a les Allemands ont des gros salons, à Essen,
HTTP. Vous m'en direz tant.
Les Italiens, voilà. Mais en gros, les marchés qui comptent, c'est dans l'ordre, c'est les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre. Voilà, c'est le top 5 des marchés. Donc, c'est là où est le potentiel.
C'est intéressant. Donc, ça veut dire que les pays à très fort pouvoir d'achat, je pense notamment aux pays du Golfe, c'est pas du tout sur la carte.
Ils ont les moyens de s'acheter des autos. Il y a des collections privées, mais si on regarde par rapport aux chiffres mondiaux, ça pèse quasiment rien par rapport au marché mondial.
Mais là, ce que vous me dites, alors combien, 12 constructeurs, alors des gros constructeurs. Donc pour eux, c'est oui, vous avez raison, c'est une grosse niche finalement, parce qu'ils sont là finalement. Le fait qu'ils soient là, c'est révélateur de quelque chose quand même.
Ils sont là, et par exemple, on a aussi Porsche qui est là cette année. Ils viennent dévoiler, on est très fiers, ils font une première européenne. Ils viennent dévoiler un véhicule, donc un véhicule moderne sur un salon de collection, parce qu'une fois de plus, ils tirent la ficelle de leur histoire, ils viennent expliquer leur voilà, c'est les 60 ans de la Porsche 911, modèle mythique. Ouais. Et en plus de ça, ils viennent parce qu'ils ont un très bon retour des clubs. En France, il y a beaucoup de clubs, il y a 1500 clubs hein, qui fédèrent vraiment cette industrie du véhicule de collection. Et Porsche ben sont là parce que c'est une façon aussi d'être en réseau, en contact avec son voilà, avec les propriétaires.
Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'aujourd'hui acheter une voiture de collection, c'est un peu comme acheter une œuvre d'art, c'est un véritable investissement pour l'avenir?
Oui, alors tous les véhicules de collection n'ont pas encore ce statut d'œuvre d'art. À partir de 30 ans déjà, il est catégorisé comme véhicule de collection. Mais effectivement, quand on vient acheter une Ferrari 250 LM à 25 millions d'euros, on a des stands avec des magnifiques Bugatti, etc., dont certaines sont encore ce qu'on appelle jus avec leur peinture d'époque, etc.
Ah, oui,
c'est des autos, sont des témoins d'un temps qui a évolué et qui raconte une histoire et aujourd'hui qui sont dans les musées.
Il nous reste quelques secondes, mais sans dévoiler les coulisses que vous ne dévoilerez pas. Enfin, vous dites elles sont potentiellement à vendre, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de transactions, beaucoup de choses qui sont réglées à l'avance, beaucoup de ventes qui sont conclues à l'avance avant l'ouverture du salon rétromobile. Non, déjà, on se parle beaucoup.
Oui, c'est ça, est-ce qu'il y a un volume d'affaires déjà attendu?
Par exemple, Arturial, dont je parlais tout à l'heure, une année normale, ils font 30-40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, avec cette voiture, ils vont vraisemblablement doubler. Donc, voilà, c'est des chiffres, une fois de plus, qui font tourner la tête. Ouais. Mais c'est un... Quand on arrive sur les autos de prestige avec ces montants-là, c'est quand même un petit milieu. Il y a quelques, on les appelle les top buyers qui sont là, qui ont des collections incroyables, beaucoup aux États-Unis. Et effectivement, ça se fait de façon cachée. Mais rien qu'hier soir, à l'avant-première, on a vu qu'il y a déjà des autos qui étaient vendues très discrètement. Donc voilà, c'est bien rare d'exception.
Oui.
Quand il y en a 32 dans le monde, hein, une fois de plus, ça part.
Et alors vous, Romain, pour terminer, qu'est-ce que vous conduisez?
J'en ai plusieurs, mais entre autres, je pourrais citer comme
et
ça.
Et la favorite.
Un petit coupé Fiat des années 60. Une Fiat 850 coupée, par exemple.
Et ben, en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. C'est marrant parce que je me disais, autant il y a de la désaffection aujourd'hui, tous les grands constructeurs ne vont plus sur les grands salons auto généralistes comme le Salon de Paris, autant un salon comme le vôtre, pour le plaisir des yeux, ça donnera toujours un public très large. Et les constructeurs auront toujours envie d'être là. Voilà, il y a encore plus de magie finalement.
On vous le souhaite en tout cas.
La nostalgie, un futur, la passion aussi.
Voilà, c'était la phrase qui s'imposait. Voilà, donc le Salon Rétromobile jusqu'à dimanche. Pourquoi est-ce que j'ai dit mercredi? Jusqu'à dimanche prochain, donc à la Porte de Versailles. C'est ouvert à tous, bien évidemment. Merci beaucoup, Romain Grabowski.
Merci à vous.
Président du Salon Rétromobile. Merci à vous encore, Adina. Adina Revol, porte-parole de la représentation française de la Commission européenne. À Paris, merci beaucoup d'être venu ce soir sur BFM Business, 19h28.
On passe à la deuxième partie de l'émission, Guillaume. Ouais. On va arriver sur la grande interview.
Et puis on va revenir sur les énergies vertes, puisque c'est le patron de Neoen, Xavier Barbaro, qui sera avec nous dans un instant. Il revoit ses objectifs à la hausse pour 2022. Il sera avec nous pour nous raconter tout ça. Puis il y a bien beaucoup de sujets, déploiement des énergies renouvelables en France, qui suscitent toujours autant de débats. Tout ça à suivre, donc jusqu'à 20h dans un instant.
À tout de suite.
BFM Business présente la grande interview.
Et donc c'est Xavier Barbaro, le président de Neoen, premier producteur français indépendant d'énergie 100% renouvelable. C'est Xavier Barbaro qui est avec nous. Bonsoir Xavier Barbaro.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Présent, on le rappelle, sur trois activités, l'éolien, le solaire et le stockage. D'un mot, on en est où sur le stockage, tiens, en quelques secondes aujourd'hui, parce qu'on dénonce sans arrêt le caractère intermittent des énergies renouvelables. On en est où sur le stockage, d'un mot, aujourd'hui?
Le stockage, ça marche. On le montre depuis 2015. Hein. Ouais. Nous, on fait ça depuis longtemps et on le fait bien.
On fait un faux procès aujourd'hui, ou renouvelable encore aujourd'hui, sur effectivement le caractère intermittent et donc
Oui, je pense que c'est un faux procès, parce que d'abord, on peut mettre beaucoup plus de renouvelables déjà dans un mix qui en contient encore assez peu, avant que ça perturbe quoi que ce soit. Et dans les régions les plus avancées, je prends l'exemple de l'Australie méridionale où Neoen est très présent. On a franchi la barre des 50%, en particulier cette fois grâce à l'aide des batteries de Neoen, mais on peut aller jusqu'à 30 ou 40% facilement, puis après un peu de stockage, même si ça coûte encore un peu cher, permet d'aller bien au-delà, et donc ça marche très bien.
Ouais. On a beaucoup de sujets à voir avec vous, notamment ce qui concerne la France, mais on va pas parler que de la France, mais aussi de la France avec cette loi sur les énergies renouvelables qui a été adoptée hier à l'Assemblée. Déjà dire que vous êtes avec nous notamment ce soir parce que vous avez annoncé tout à l'heure un EBITDA supérieur à l'objectif précédent. Vous êtes à 410 millions d'euros, c'est ça Xavier Barbaro?
On sera un peu plus de 410.
Vous serez un peu plus de 410 finalement. Parce que vous le dites, c'est lié à l'augmentation de nos capacités de production finalement qui a été supérieure aux attentes sur 2022. Hein, c'est ça.
Oui, largement. On a aussi d'autres facteurs comme la hausse des prix d'électricité ou justement la contribution de nos batteries.
Oui.
Mais c'est avant tout parce que Neoen a mis en service des centrales solaires faire des centrales éoliennes, des nouvelles batteries en Europe, en particulier en France, en Australie, en Finlande. Donc on a eu déjà l'occasion à deux reprises en 2022 de rehausser notre guidance, et donc on fait une troisième et dernière fois normalement, puisqu'on publiera nos comptes le 28 février.
Et donc vous annoncez, je crois, une certaine capacité en opération, en construction. Voilà, il y a des objectifs aussi qui sont revus aujourd'hui à ce stade.
Oui, alors on a plus fait un point d'étape. Aujourd'hui, on a atteint déjà les deux tiers de notre business plan 2025. On est à 6,6 gigawatts, c'est un peu plus de cette tranche nucléaire.
Pour le profane que nous sommes, les profanes que nous sommes, ça représente quoi finalement, rapporté, je ne sais pas, la puissance nucléaire française.
Il y a plusieurs manières de mieux le décrire pour pour les profanes. Donc c'est l'équivalent de 6 tranches nucléaires. C'est aussi plus de 6 milliards d'euros d'investissement. Et puis quand on regarde ça dans le temps, Neoen a multiplié sa capacité par 6 en 6 ans. Et donc notre objectif de 10 gigawatts en 2025, on en est déjà aux deux tiers. Donc on accélère.
Et vous accélérez. Et alors vous avez accéléré notamment avec beaucoup de contrats signés. Vous le rappeliez, ne serait-ce que sur le quatrième trimestre. Je vois des contrats en Australie, en Suède, en Finlande. Et la France dans tout ça, Xavier Barbaro.
Et la France, aussi. On a en 2022 fait deux choses importantes. Je pense qu'on a continué d'abord à vendre de l'électricité à très bon prix à nos contreparties gouvernementales. Donc on a mis en service des nouvelles centrales. On a aussi gagné des nouvelles appels d'offres gouvernementaux. Et ça permet justement, par exemple, ensuite de financer des boucliers tarifaires. Donc c'est évidemment une utilité assez directe. On a aussi vendu l'électricité à des clients entreprises. On a signé en décembre, je pense, un beau contrat mutuellement bénéfique avec TDF. Donc on permet à des industriels français comme TDF et bientôt d'autres d'être de plus en plus compétitifs, en plus évidemment de verdir leur mix. Ça, je pense que c'est doublement important pour ces entreprises-là.
Mais on voit de plus en plus d'entreprises, grandes entreprises, communiquer effectivement sur ces contrats qu'elles passent avec des grandes entreprises comme vous, effectivement, pour assurer leur approvisionnement dans les prochaines années. Je vous parlais de la France, on va en parler largement, même si, je le rappelle, vous êtes présent dans 16 pays, parce que vous savez qu'il y a eu ce rapport qu'a tant fait jaser le 25 janvier dernier, l'ADEME et Observer, qui nous confirmait que la France était en retard dans le déploiement des énergies renouvelables. Nous sommes à moins de 20% du mix énergétique, alors que nous devrions être à 23%, je crois, d'ici la fin de cette année. Est-ce qu'il faut s'en lamenter et s'en désespérer? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, personnellement?
Alors nous, on regarde ça toujours avec pragmatisme. Donc, on regarde l'avenir et on se dit qu'il y aurait plein de choses à faire. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va y arriver? Enfin, nous, en tout cas, on manque pas, chez Neoen comme chez nos confrères, ni de capital, ni de savoir-faire, ni d'envie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins. La France est en retard, on l'a su, c'était d'ailleurs le seul pays de l'Union Européenne à avoir raté ses objectifs l'an dernier. Là, donc vous voyez, le rapport Observer dit encore la même chose. Et pourtant, la France est un pays béni des dieux, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la place, il y a des montagnes, il y a
avec de l'hydraulique. Une façade maritime quand même assez incroyable.
Bien sûr. Inédite, quoi, et donc tout ça devrait être des ingrédients idéaux pour être le grenier à électrons verts de l'Europe. Et pourtant, on est les seuls à être en retard.
Malgré cette fameuse loi d'accélération des énergies renouvelables qui a refait parler d'elle, puisqu'elle a été adoptée hier après bien des avatars du côté de l'Assemblée nationale. Elle va arriver au Sénat le 7 février prochain. Est-ce que vous dites, beaucoup en doute, que c'est un game changer pour le déploiement des énergies renouvelables en France, ou vous dites que c'est une occasion ratée finalement
Nous on est assez. Alors, je vous ai amené ce bijou là, 117 pages.
Alors je vois ça, ce petit tag que vous avez amené là depuis tout à l'heure, que je regarde.
C'est la loi, je l'ai imprimé, c'est pas très green, mais je l'ai imprimé quand même, ça me fera mal à l'écriture.
Vous pouvez la montrer à la caméra, on voit l'essentiel du pavé.
Un peu de matière, beaucoup. Nous on le découvre, on n'a pas eu le bonheur d'être consulté sur cette loi, pourtant on a levé le doigt à plusieurs reprises.
Vous le découvrez maintenant, celle que vous me dites?
On s'est manifesté auprès du cabinet de la Première Ministre, auprès du cabinet de la Ministre de la Transition Énergétique, et on n'a pas eu l'honneur d'être consulté. C'est dommage, parce que je pense qu'on avait des choses intelligentes à dire. Neoen est le premier acteur indépendant, on a 14 ans d'historique en France, on a fait des belles choses et des choses utiles, et pourtant on a l'impression que cette loi finalement a vécu sa vie indépendamment du secteur, qui avait pourtant, je pense, des choses intéressantes à partager avec le législateur, et cette loi, c'est une lecture un peu déprimante, je ne vous cache pas que beaucoup de choses qui sont assez théoriques, l'accélération, pourtant on l'a souhaité, je me souviens, on s'était vu ensemble au mois d'août.
Bien sûr.
Vous me demandiez ce qu'on attendait de cette loi, et on s'était dit que ça pouvait aider à plein de choses, ça pouvait aider à accélérer les délais d'instruction, pour peu qu'il y ait probablement plus de fonctionnaires. Je ne suis vraiment pas en train de faire du fonctionnaire bashing.
C'était le but avoué, effectivement, quand il y a des articles qui ont commencé à fuiter dans la presse au mois d'août, c'est effectivement accélérer les délais, qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'on voit en Allemagne et en France, finalement.
On pouvait encadrer les délais de recours, on pouvait simplifier les procédures, on pouvait justement mettre plus de ressources du côté de l'administration. formation qui en a bien besoin. Nous, on a des contreparties publiques qui sont des gens qu'on respecte beaucoup, qui font un travail remarquable et aujourd'hui qui sont sous l'eau. Et je pense que cette loi va pas les aider. Il y a certains passages qui sont quand même collecteurs.
De quelle façon on s'est perdu? Alors, apparemment, vous avez quelques exemples à nous citer.
Ah oui, moi, je lisais. Hein, voyez, j'en étais avant de venir. J'en étais à l'article 3. Il m'en reste encore quelques-uns.
Mais attendez, excusez-moi. Vous découvrez seulement ce texte maintenant?
Alors, on l'a vu. Il y a eu une première version au Sénat, ensuite à l'Assemblée, mais enfin, il y a eu des amendements de dernière minute. On a découvert parfois, sans prévenir, des amendements qui étaient assez hostiles finalement à notre secteur.
Dites-nous si vous avez quelques moments croustillants.
Cette loi qui s'appelle loi d'accélération.
Je voulais vous dire qu'Agnès Pannier-Runacher sera notre invitée demain matin, donc si vous avez un message à lui faire passer, n'hésitez pas.
Je lisais avec gourmandise l'article 3 là, sur l'accélération. Donc on nous dit on va vous créer des zones d'accélération. Et d'ailleurs, nous, on en subit déjà l'effet négatif, puisque les préfets ou les administrations auxquelles on parle nous disent « Attendez, avant de savoir si on doit faire avancer vos projets, on va d'abord attendre de savoir s'ils sont dans les zones d'accélération, puisque s'ils sont pas dedans, c'est qu'a priori, c'est pas les bons. » Donc déjà, on voit, nous, vraiment au sens propre, dès maintenant, un coup de frein. Donc on se dit « Bon, peut-être qu'on sera sauvé par les zones d'accélération, mais quand on lit un peu le séquencement, donc je vous lis l'article. Après concertation du public, ce qui déjà peut prendre un certain temps, les communes identifient des zones d'accélération et les transmettent dans un délai de 6 mois. Donc déjà, on se met 6 mois au référent préfectoral. Donc là, en gros, on a déjà pris une petite année. Et après, on ne sait pas trop si en parallèle ou en séquentiel, mais on organise des débats. Puisque je lis dans la loi, continue à lire l'article, un débat se tient au sein de l'établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d'accélération identifiées avec le projet de territoire. Puis ensuite, le référent préfectoral arrête la cartographie et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l'énergie. Ensuite, on organise une conférence. Le référent préfectoral consulte au sein d'une conférence territoriale les établissements publics de coopération intercommunale. Ensuite, on se redonne 3 mois puisqu'on nous dit l'avis est transmis aux référents préfectoraux au plus tard 3 mois après la réception. Lorsque cet avis conclut que les zones d'accélération identifiées sont suffisantes, après, je sais, si c'est pas suffisant, j'imagine qu'on repart à zéro d'ailleurs, mais donc si elles sont suffisantes, les référents cette fois arrêtent la cartographie, mais attention parce qu'il y a une précision, il faut toujours lire les petites choses en écrit. Après avoir recueilli l'avis conforme des communes du département, lui-même exprimé par délibération du conseil municipal, mais on en a pour des années. On va mourir guéri. On va avoir des zones d'accélération en 2027 et en attendant, tout le monde aura levé le crayon. C'est hyper triste.
Honnêtement, vous voyez ça ailleurs dans le monde ou pas? Ou c'est français?
C'est très français. Moi, j'étais la semaine dernière en Suède et en Finlande pour Neoen, puisqu'on est assez présent là-bas. Oui. Je voyais aujourd'hui à l'ambassade d'Australie en France le ministre australien de l'énergie. Vous voyez 3 exemples récents, puisque c'est à l'échelle des derniers jours, 3 pays qui n'ont pas mis de loi d'accélération et de zone d'accélération, et qui pourtant accélèrent concrètement. Cette loi, le principe était bon, mais en France, il y a toujours ce penchant pour faire des lois, ou pour faire des procédures, ou pour faire des concertations et des référents préfectoraux. Mais à la fin, le but qui va être atteint est le contraire de celui qui était recherché. On va avoir 4 ans de grande glaciation.
Je rappelle que ce texte est le premier volet d'un triptyque sur l'énergie. Au printemps, on va défendre au Parlement le projet de loi favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Et puis ensuite, au Parlement, on se prononcera au mieux cet été sur le futur énergétique de la France avec la loi de programmation pluriannuelle qui fixera la part de chaque énergie nucléaire renouvelable. Dans vos esprits, les espoirs les plus fous, vous voudriez qu'on assigne quelle part du mix énergétique au renouvelable d'ici quelques années, à échéance de 5-10 ans?
Aujourd'hui, quand vous regardez le solaire et l'éolien, c'est un peu plus d'une dizaine de pourcents en France. Après, il y a l'hydraulique, puisqu'on a la chance d'avoir des montagnes et des cours d'eau qui sont pas loin de 20%, entre 15 et 20%. On pourrait avoir 20, 30, 40% d'intermittents, donc en gros, multiplier le solaire et l'éolien par 3 ou 4 très facilement.
À échéance de...
On pourrait faire ça, franchement, de 10 à 20 ans, suivant le rythme.
Avec cette loi?
Avec cette loi, certainement.
Voilà.
L'objectif aurait dû être ça. On pourrait avoir en France, mais vraiment facilement, 60%, 70% de renouvelables avant même de se demander s'il y a des problèmes d'intermittence et des batteries à mettre en plus, puisque justement, l'hydraulique qu'on a déjà, c'est déjà une sorte de super batterie. On a de la chance. On a des batteries dans nos montagnes. Et ça, c'est vraiment dommage de passer à côté. D'autant plus que nous, notre ressenti dans les territoires, On est plutôt bien accueilli. Parfois, évidemment, l'éolien fait débat. C'est légitime. On est en démocratie. Le solaire est bien accepté. Moi, j'ai reçu ce matin un mail d'un député MoDem en Nouvelle-Aquitaine qui nous disait c'est dommage. Moi, j'ai essayé de rendre cette loi un peu plus digeste et j'y suis pas arrivé, mais on continuera le combat. Enfin, il y a quand même, au niveau des élus locaux, il y a la prise de conscience qu'on pourrait aller beaucoup plus loin.
Est-ce que vous avez l'impression qu'en France aujourd'hui, peut-être plus qu'ailleurs, on est encore en partie coexistence de deux mondes qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas? D'un côté, les pro-nucléaires et d'un côté, les pro-renouvelables. Petite bataille de chapelle qu'on voit pas en Allemagne, finalement, où on a vu les écologistes bouger un petit peu, peut-être par la force des choses, mais sur le dossier du nucléaire. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, il y a des positions trop figées pour vous?
Oui, il y a toujours la rémanence dans débat qui date maintenant d'il y a plusieurs décennies. Ou si on était autre chose que pro-nucléaire, c'est qu'on était anti-nucléaire. Et moi, je pense qu'on peut être pro-renouvelable tout en étant content finalement de l'effort industriel et financier qui a été fait en France pendant plusieurs dizaines d'années. Ça ne veut pas dire qu'il faut construire en masse des nouveaux réacteurs, mais en tout cas, l'outil industriel qu'on a, il faut continuer à le faire vivre. Aujourd'hui, le problème de la France, d'ailleurs, il est que cet outil est un peu cassé. On nous dit les prix d'électricité sont élevés, c'est la faute à Poutine. Non, c'est la faute à EDF. Aujourd'hui, le problème en France, il est là. On a tout misé sur du nucléaire et quand on fait des séries, on s'expose à des risques de défaut de série. C'est assez dommage. C'est en train d'être réparé, donc bonne nouvelle. Moi, je m'en réjouis au moins à titre citoyen. Après, il y a toujours la question des déchets, etc. Mais en tout cas, cet outil, on l'a construit autant qu'il marche. Les déchets, on les aura même si ça ne marche pas. Donc, autant que ça tourne.
Mais il y a toujours l'idée pour vous, enfin pour aujourd'hui, que le mix de l'avenir, c'est l'association, c'est l'attelage nucléaire éolien. Il n'y a pas de sujet là-dessus.
En tout cas, on a du nucléaire pendant encore quelques décennies. Oui. Donc, nous, on pense chez Neoen, comme d'ailleurs chez RTE, quand vous lisez les rapports RTE avec une posture finalement d'ingénieur, ils ne sont pas en train de prendre parti. Ils voient assez bien finalement une transition entre un gros parc nucléaire et puis un parc nucléaire qui rétrécit lentement, même avec quelques EPR en plus, et puis du renouvelable qui monte en puissance, à terre, sur des toitures, en mer, en utilisant l'hydraulique qui est déjà là. Tout ça marche assez bien. Quand vous imaginez en plus de ça que côté consommation, il y a des réseaux intelligents, il y a des voitures électriques, on en parlait il y a quelques instants dans votre journal, qui sont elles-mêmes des batteries sur pattes, qui elles-mêmes aident justement à intégrer plus de renouvelables. Oui. La tendance de fond, elle est assez naturelle. En fait, on n'est pas en train de chercher un arbitrage politique. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a encore beaucoup de crispation. Le nucléaire va continuer à exister par la force des choses parce qu'il est déjà là. Il va s'éteindre lentement pour des raisons qui sont avant tout économiques plus qu'idéologiques, parce qu'on aura trouvé une meilleure solution, plus propre, pour moins cher, donc finalement plus simple à gérer.
L'un des scénarios de RTE 100% renouvelable à terme, vous l'achetez ou pas à terme?
Moi, j'y crois beaucoup, alors, le terme, mais je...
C'est relatif, oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr.
J'espère le voir de mon vivant. Ouais. Moi, je pense qu'en 40 ans, on verra effectivement une France qui sera peut-être à 80 ou 90% renouvelable, comme nos voisins aussi. Mmh. Et ça se sera passé naturellement. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, nous, de manière vindicative, l'extinction du nucléaire. Il est là, il faut en profiter, mais de manière assez naturel, en fait, il va y avoir une transition vers un mix beaucoup plus renouvelable qui sera bien accepté, d'autant qu'il sera très économique et donc facteur de compétitivité.
Dans l'immédiat, pour revenir à des choses un petit peu terre à terre, comment est-ce que vous regardez le fait qu'on ait mis à contribution les producteurs d'énergie renouvelable, justement, on en parlait tout à l'heure, pour financer une partie du bouclier tarifaire? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir... Alors, un petit peu échappé par rapport à certains groupes pétroliers dont je ne citerai pas le nom, suite Total Energy bien sûr, échappé au débat sur les super profits finalement, vous. Est-ce que vous dites ça nous pend au nez ce débat et un jour ça arrivera sur le tapis forcément?
Nous, on avait pris des décisions d'investissement qui étaient basées sur des scénarios de prix plus bas. Donc finalement, le fait que les prix aient augmenté pour nous, c'était un upside, comme on dit en bon français, qu'on en restitue une bonne partie à la collectivité. Vous voyez, on n'a pas fait de recours, on ne s'est pas roulé par terre. Finalement, ça montre une chose, qui est que le renouvelable est extrêmement bénéfique à la nation. D'abord parce que c'est vert, ensuite parce que c'est souverain, puisque c'est local, et enfin, et surtout parce que c'est pas cher. Donc le fait pour notre industrie et pour Neoen, puisqu'on a largement contribué, d'avoir finalement financé une bonne part du bouclier tarifaire, je pense que ça remet l'église au milieu du village. Ça montre que le renouvelable n'est pas une espèce de pompe à subvention, et au contraire, est là pour redistribuer de la valeur qu'on a contribué à créer. On est content évidemment d'en garder une partie pour nous, parce que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements bien de demain.
Et les emplois d'après-demain.
Et exactement, l'industrie française, il y a toujours un débat sur les panneaux chinois, mais aujourd'hui, l'industrie française, que ce soit des Nexans, des Bouygues, des Vinci, sont des gens extrêmement engagés dans les travaux que nous, on commande. Et donc ça, c'est bien. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, le fait qu'il y a eu finalement une sorte d'écrétage de nos profits, non, on ne s'est pas roulé par terre, c'était mutuellement bénéfique d'avoir pu gagner plus d'argent et en même temps d'avoir pu en restituer une partie. Ouais. Je pense que ça a montré aux gens à quel point on était une industrie d'avenir.
Pour conclure sur ce projet d'énergie renouvelable, vous dites le train est passé, repassera-t-il assez vite finalement ? Ou vous dites on peut encore peser sur ce pavé que vous nous avez gentiment apporté de quelques 117 pages là finalement.
Je pense qu'il peut y avoir...
Malheureusement les jeux sont faits, les dés sont...
Oui, malheureusement, cette loi, elle a été votée telle quelle. Après, il y a toujours des décrets d'application. On espère un peu de souplesse. On espère aussi que les erreurs qui, à notre avis, sont dans cette loi, ben, on en prendra conscience collectivement assez vite. Malheureusement, on est sur des industries à cycle long, donc oui, ça se verra peut-être dans un an, deux ans, trois ans. De manière extrêmement cynique, quand on regarde les 14 dernières années, chez Neoen, nous, on a souvent... profiter entre guillemets des périodes dures parce que nos concurrents jetaient l'éponge en disant j'en peux plus, ce pays est trop compliqué, il y a de la rétroactivité, il y a de la complexité, il y a du millefeuille, etc.
C'est encore quelques-uns en France et donc, quand même.
Oui, bien sûr, mais nous on a toujours su encaisser ce genre de choc et en sortir renforcé. Donc, et je dis ça sans aucun cynisme, c'est triste, mais finalement pour Neoen, je reprends ma casquette de chef d'entreprise, on pense qu'on saura à nouveau surfer sur cette mauvaise vague et en sortir peut-être renforcé par rapport à d'autres qui se seront découragés plus vite que nous. Mais à titre citoyen, je trouve ça dommage.
Oui.
Après, heureusement, Neoen est assez occupé dans trois continents et dans beaucoup d'autres pays.
C'est la question que j'allais vous poser. 16 pays, la France, ça représente quel pourcentage de votre activité aujourd'hui, de votre chiffre d'affaires ?
La France, où on a commencé en 2008 et où on a aujourd'hui pas loin de la moitié de nos ressources humaines, ça représente à peu près 20-25% de ce qu'on fait. Ça
tout
devrait
même,
être beaucoup
même.
Plus. Oui,
tout
mais
même.
Ça devrait être beaucoup plus.
Tout de même.
En Australie, où on a commencé bien plus tard, on est déjà deux fois plus grand qu'en France. Et en Finlande, où on a commencé encore bien plus tard, on est en train quasiment de projeter une croissance à la française beaucoup plus vite. C'est dommage.
C'est dommage, mais par la force des choses, vous les regardez de plus en plus ailleurs qu'en Europe. Voilà, 16 pays aujourd'hui, peut-être d'autres demain. Il y a d'autres projets dans les cartons à l'étranger aujourd'hui.
Nous, on croit beaucoup en l'Europe.
Ouais.
On est très australien, on est aussi au Canada, on
exactement,
est aussi au Mexique.
Partout,
mais l'Europe, je vous donnais les exemples de la Suède et de la Finlande où j'ai été la semaine dernière. Il y a évidemment besoin, dans la plupart des pays européens, de verdir, de rendre l'électricité plus souveraine et de la rendre moins chère. On a des solutions pour ça, on a des équipes qui sont là pour ça. On le fait bien. On le fait sans avoir besoin de loi d'accélération. Donc nous, Neoen, on l'a vu dans les annonces qu'on a fait au mois de décembre. Aujourd'hui, on vend de l'électricité en Finlande. On a signé des nouveaux contrats pour des nouvelles batteries en Suède. On a lancé de la construction aussi au Portugal.
Ouais.
On a gagné des appels d'offres en Irlande. La transition énergétique à l'échelle européenne et le fait d'aller vers plus de souveraineté et de se débrancher de la Russie, pour dire les choses comme elles sont, et de rendre de la compétitivité à nos clients, on le vit à la maille du continent. Mais on a envie d'en faire plus en France. On a les moyens financiers et humains d'en faire plus. C'est dommage de buter à répétition sur des questions administratives.
Et ben voilà pour cette loi en tout cas qui va arriver au Sénat. Peut-être d'autres aménagements qui vous faciliteront la tâche. Merci beaucoup Xavier Barbaro.
Merci,
en tout
Guillaume.
Cas, merci d'être venu nous voir ce soir, le président de Neoen avec nous ce soir sur BFM Business. Merci infiniment.
Merci
19h55, une petite pause dans un instant. Tekkenco avec François Soral. Mais d'abord, on va aller faire un tour du côté des États-Unis parce que la Fed, la Réserve fédérale, parle dans quelques instants avec probablement une nouvelle hausse de taux qui va être annoncée. On va décrypter tout ça avec Stéphane Pedrazzi et puis François Soral dans la foulée pour Tekkenco. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h, Good Evening Business pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée. À demain.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.